Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Vincent Lemot, il est président de Guingamp-Paimpol Agglomération, l'agglomération de Guingamp-Paimpol dans les Côtes d'Armor. Il est également maire de Plouec-du-Trieux, on en parlera des maires tout à l'heure, et des élus de terrain. Il est en direct avec nous ce matin, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler de beaucoup de choses ce matin, mais je crois pouvoir m'avancer en disant que je reçois un homme combatif ce matin, et encore un petit peu en colère peut-être.
Je pense que oui, l'état d'esprit après cette séquence estivale a laissé un peu d'amertume dans la bouche, et surtout les derniers événements de ces jours-ci où effectivement j'ai eu quelques montées de pression et qui font que effectivement parfois je peux être en colère.
Alors la colère, on va l'expliquer à nos auditeurs, hein, c'est cette question de l'hôpital de Guingamp, hôpital qui pourrait être reconstruit sur le site même de l'ancien établissement, alors que, si je résume, vous aviez proposé un autre site, une autre construction ailleurs et une réhabilitation de ce bâtiment pour faire autre chose. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, et avant d'arriver à ce point-là, qui est le dernier élément de crispation, je voudrais dire que les élus locaux sont des élus responsables. Et des élus bretons en particulier, ce sont des élus qui savent se taire et qui savent respecter l'autorité. Donc je tiens à le dire parce que on pourrait croire que les colères peuvent être gratuites. Non, les colères, parfois, elles sont fondées. Et lorsqu'un élu breton se fâche, il a bien des raisons. En général, il va se taire, l'élu breton. Il va se taire, il va travailler, et il va essayer d'arriver à une solution sans aller sur la place publique et forcément expliquer les problèmes. Pour autant, là, on voit bien que la situation a changé vis-à-vis des élus. Les élus, aujourd'hui, ils sont mis au devant de la scène, ils sont sur la place publique, ils sont sans cesse mis sous pression. Et à un moment donné, on dit « ça suffit ». Donc nous, ça fait depuis 6 ans qu'on essaye de dire à l'Agence régionale de santé que ça suffit concernant l'hôpital de Guingamp. Nous voulons avoir des réponses, pas simplement des questions auxquelles on donne une réponse, désolé pour mes amis normands, mais peut-être bang oui, peut-être bang non. Non, nous souhaitons avoir une réponse concernant l'avenir de l'hôpital de Guingamp. Oui pour la construction d'un hôpital neuf, oui pour le maintien de la maternité, oui pour le maintien des urgences, oui pour le maintien de la chirurgie. Et là, depuis plusieurs mois, nous étions en discussion avec les cabinets des ministères, Rousseau puis Valto, nous étions en discussion avec la directrice régionale de la santé. Voilà. Nous étions également en discussion avec l'hôpital de Guingamp. J'ai eu des mails de l'hôpital de Guingamp pour me dire à plusieurs reprises qu'il leur fallait définir un terrain parce qu'ils considéraient que la construction sur place était impossible. Donc nous avons travaillé, j'ai mis en place des instances de concertation au niveau de l'agglomération, j'ai fait délibérer le conseil d'agglomération sur le sujet avec un vote formel, 86 voix pour et 2 abstentions. Le maire de Pabu et un médecin hospitalier de Saint-Agathon, et nous avons remis la copie du travail demandé par l'ARS. Et ce travail, en fait, n'a servi strictement à rien, puisque j'ai participé à une réunion du conseil de surveillance qui suivait, en fait, une autre réunion qui suivait le conseil de surveillance, où on a découvert que ce qui était demandé à l'agglomération depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire un terrain neuf avec une construction neuve, eh bien, en fait, ce projet-là n'était pas nécessaire parce qu'ils considéraient qu'une reconstruction partielle, c'est-à-dire des EHPAD qu'il est nécessaire de restructurer, peut-être un bâtiment dans 10 ans, concernant la médecine en général, voilà, de considérer. Donc, on n'est plus sur le projet à 150 millions d'euros. Là, on est sur un projet à 25-30 millions d'euros. Donc, on est aujourd'hui face à une situation ubuesque où on nous a fait travailler pour rien, en fait. Voilà. Et c'est là où les élus, à un moment donné, ont dit stop. On peut pas être pris pour des perdreaux de l'année systématiquement avec l'Agence régionale de santé. Certes, elle nous consulte, mais elle ne nous écoute jamais.
Voilà, juste de la consultation, de l'économie aussi, hein, parce qu'il s'agit d'économie, hein, on l'aura bien compris, et surtout des décisions qui sont prises en amont. Finalement, vous n'avez peut-être, alors vous allez me corriger si je dis des bêtises, mais vous n'avez peut-être plus votre mot à dire finalement.
D'une certaine manière, couplé au déféré préfectoral qui a conclu à une suspension de nos arrêtés pour l'accès de nos concitoyens à la santé publique dans nos territoires. Donc là, préfet a considéré que juridiquement, je le dis bien, hein, nous étions incompétents. Mais le terme incompétent, qu'il soit pris ou choisi de façon juridique ou morale, je peux vous dire que ça fait mal.
D'autant qu'ici se succèdent au micro beaucoup d'élus, beaucoup de personnels politiques, de quelque sensibilité que ce soit, et on entend toujours le sujet de la santé revenir, l'accès à la santé dans les campagnes, l'accès à la santé en Centre-Bretagne, dans le Trégor, ça revient très souvent. Il y a une forme, on va dire, de glissement entre ce que perçoit l'État et ce qui se passe réellement sur le terrain.
Je pense qu'on est aveuglé par les enjeux financiers dans notre pays et sur cette question de la santé en particulier. Alors que la santé, c'est la possibilité de vivre ou de ne pas vivre en fonction des moyens qu'on va y attribuer. Et nous sommes aujourd'hui sur un territoire costa-armoricain et a fortiori un territoire Guingamp-Paimpolais qui sont les plus en souffrance de Bretagne. Et en France, nous avons des indicateurs de santé qui sont très dégradés. Et nous sommes pas d'accord avec l'analyse qu'a pu déployer la préfecture des Côtes d'Armor lors du déféré, mais cette analyse, elle est aussi, d'une certaine manière, corroborée par l'Agence régionale de santé. Que le préfet agisse et fasse son contrôle de légalité, c'est une chose, et je respecte totalement le travail de la préfecture, mais que l'Agence régionale de santé ne puisse pas considérer à un moment donné les faits matériels prouvés par la presse, par les médias, par les élus qui sont en première ligne, et comme on dit souvent, les maires sont à portée de baffe de nos concitoyens ou à portée de soins de nos concitoyens. Donc ne pas nous entendre, ça fait mal. Mmh. Et on a l'impression de ne servir plus à rien, alors que dans le travail au quotidien, nous sommes les premiers acteurs du service public de l'État. Nous sommes des agents d'État et nous avons chevillé au corps cette envie de faire bien pour nos concitoyens. Et là, effectivement, on ne nous écoute pas et on nous envoie au tribunal administratif pendant l'été et après, on apprend que des réunions ont eu lieu sans les élus. Je peux vous dire que là, c'est jamais 203, bah on y est. D'une certaine manière, on a franchi un cap. Alors, au-delà de ça, je constate que la nouvelle ministre, Madame Darrieussecq, elle a dans son titre de ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Pour moi, c'est la victoire des élus locaux d'avoir l'accès aux soins dans le titre de la ministre. Ça montre que l'ARS, les autorités locales n'ont pas pris la mesure effectivement de cet enjeu, mais le gouvernement Barnier, c'est une intention positive que je leur attribue, ils ont constaté que l'accès aux soins était une difficulté et c'est dans le titre de la ministre. Donc je pense qu'on a gagné politiquement la partie.
Alors justement, vous me donnez une transition toute simple, puisque j'allais vous poser la question du nouveau gouvernement, le gouvernement Barnier, qui prend ses fonctions, avec, on l'a vu, des élus de terrain. Alors après, on peut commenter évidemment la composition de ce gouvernement et la feuille de route qui sera donnée le 1er octobre, puisque Michel Barnier prononcera à ce moment-là son discours de politique générale. Mais pour vous, c'est plutôt déjà des signaux positifs. Alors, sur la santé et plus largement, est-ce que c'est un gouvernement finalement qui trouve faveur à vos yeux ?
Les élus de terrain que nous sommes, on constate, et de région, les élus de région, on constate que la situation est vraiment grave. Mmh. L'ambiance est lourde dans nos villes et dans nos campagnes. On n'a pas le droit de rigoler, on n'a pas le droit de jouer, on n'a pas le droit de perdre du temps, on n'a pas le droit de sombrer dans les petites polémiques. Et malheureusement, nous devons être dans une capacité de nous rassembler à un moment où la France va pas si bien que ça dans un monde encore plus incertain, une Europe aujourd'hui en proie aux radicalisations, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc, je pense que le gouvernement qui a été mis en place, même s'il ne correspond pas aux résultats de juin dernier où la gauche était sortie en tête de ces élections législatives, désormais, nous devons être des élus exigeants vis-à-vis de ce gouvernement et les premiers signes, effectivement, montré par ce gouvernement sur la prise en compte de la santé, sur la question des collectivités territoriales, va être déterminante pour que les élus locaux puissent effectivement travailler avec ce gouvernement, parce que on est parti sur un sujet qui était délicat, c'était celui des finances publiques, où il va falloir faire 10 milliards d'économies, notamment sur les collectivités territoriales. Donc il va falloir qu'il y ait du dialogue entre le pouvoir local et le pouvoir national. Parce que si on rentre dans un jeu simplement de condescendance à l'endroit des élus locaux, je pense que la confiance pourra partir très vite. Et je pense que là, sur ce sujet de la confiance des élus locaux, nous sommes les maires encore, présidents d'Interco, les élus les plus appréciés ou les moins dépréciés vis-à-vis de nos concitoyens.
Souvent, les élus, de face aux citoyens, hein, le maire est abordable, au moins dans les petites villes ou dans les petits villages. Le président d'intercommunalité, souvent, il est maire d'une commune, donc on peut aussi aller le solliciter. Il y a une grande désespérance, on l'a senti, je l'ai senti, moi, lors des interviews de la matinale, sur le terrain, désespérance par rapport justement aux finances publiques. On demande, en tout cas les élus demandent plus d'autonomie, qu'on leur fasse confiance. Est-ce qu'il faut restaurer cette confiance là qui a été abîmée?
Alors moi je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'il faut passer à la 6e ou à la 7e ou à la 8e République avec une constitution aujourd'hui qui a beaucoup bougé, celle de 1958, et je pense qu'elle nous permet d'aller vite sur un certain nombre de sujets comme le droit à la différenciation, le droit à l'expérimentation et la possibilité de confier plus de pouvoir aux élus locaux. Je pense que le système, si on le reprend celui de la santé, je pense qu'un ministère de la Santé, une agence régionale de santé, des groupements hospitaliers territoriaux, des contrats locaux de santé, une direction départementale de l'ARS, bref, beaucoup de gens qui interviennent et au bout du compte, on a un système de santé en crise.
Il faut simplifier.
Voilà, la simplification et la possibilité de donner aux régions ou à une autre, ou à un autre niveau territorial des compétences et une organisation de ce système de santé.
Simplifier. Mais il faut que les moyens suivent aussi.
La question ensuite, c'est la question du consentement à l'impôt. La consentement à l'impôt, c'est le fondement de notre organisation démocratique aujourd'hui. Il est aujourd'hui sur la base qui s'est restreinte ces dernières années de prélèvements fiscaux. On a voulu supprimer la taxe d'habitation, on a supprimé des parts conséquentes de contributions économiques. Aujourd'hui, on a raréfié, le président Macron a cette responsabilité-là, a raréfié l'argent public dans notre pays. Mais on sait très bien que sans argent public, on ne sera pas capable d'assurer notre solidarité et notre cohésion nationale. Et là, on voit bien que s'il n'y a pas de solidarité dans notre pays, il n'y aura pas de cohésion sociale. Et s'il n'y a pas de cohésion sociale, ça sera l'insécurité. Et je fais le lien, moi, par le manque d'impôts, le manque de services publics. Et si on réintroduit plus de services publics dans nos territoires et dans notre pays, je pense qu'on réglera une partie des problèmes que vivent nos concitoyens, de sentiment de délaissement et de déclassement. Mais il faut assumer, effectivement, ceux qui ont le plus de moyens doivent pouvoir aussi contribuer le plus. C'était le sens, en tout cas, que donnait François Hollande lorsqu'il voulait renforcer les tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réforme fiscale à faire. Le Premier ministre a donné des intentions, en tout cas, sur le sujet, M. Barnier. Donc, je pense que la gauche ne peut être que favorable dès lors qu'on pourra ainsi contribuer les plus riches dans notre pays.
Voilà, une forme de solidarité nationale, finalement.
Réinventer la solidarité nationale, être sur la prise en compte des pouvoirs locaux dans la mise en œuvre des politiques nationales, et ne pas être simplement des petits opérateurs pour le compte de la République. Nous sommes des opérateurs au même titre qu'un préfet, au même titre qu'un ministère. Le maire dans sa commune a une autorité, donc il faut le protéger, il faut le garantir, il faut le respecter, comme le président de région, comme le président de département, et leur donner la possibilité de définir leurs moyens et définir leur action dans un cadre républicain. Je pense que ça serait une nouvelle étape de la décentralisation qu'il nous faudrait, mais avec les moyens qui seraient afférents. Mais là, on doit mettre tout le monde autour de la table. Ce n'est pas simplement qu'un système condescendant.
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Vincent Lemot. C'est est-ce qu'il faut plus solliciter au niveau de l'État les élus de terrain, les maires, les conseillers d'agglomération ou les présidents d'agglo, les présidents de région? Est-ce qu'il faut les écouter? Parce qu'on a le sentiment que là aussi, la communication ne passe pas bien.
C'est le problème français de l'action descendante. À un moment donné, on a des instances de concertation qui, pour moi, aujourd'hui, c'est des instances où on peut souvent perdre notre temps, 1h30, 2 heures de discussion, sans avoir pour autant une idée de ce qu'on va faire après.
Beaucoup de réunions, finalement.
Pas mal de réunions auxquelles on ne peut pas participer parce que l'agenda concernant nos compétences est bien là. Et il faut assurer ses compétences, mais nous pourrions user, je pense, différemment notre temps dans des instances à caractère décisionnel. C'est ce que j'ai dit à l'ARS. Ils ont refusé d'ailleurs. Ils m'ont dit, par exemple, sur le sujet de l'hôpital de Guingamp, qu'il y avait suffisamment d'instances. Non. Moi, je demande un comité de pilotage décisionnel, c'est-à-dire que, au bout du compte, il y a un caractère délibératif de notre discussion, parce que parler pour ne rien dire, c'est frustrant et c'est énervant, on perd notre temps. Donc moi je demande qu'on ait maintenant des réunions avec l'État à caractère décisionnel, délibératif, et qui engage pour une réunion suivante où on va parler d'autre chose et on va avancer. Parce que non, les élus locaux perdront plus leur temps dans des réunions qui ne servent pas à grand chose.
D'autant qu'il y a eu une alerte, on a eu les élections européennes en juin, les législatives après la dissolution en juillet, et à chaque fois, les Français qui ont voté, qui ont exprimé leur colère, parfois voté à gauche, mais aussi voté à l'extrême droite. On voit beaucoup, on voit en tout cas le Rassemblement National gagner du terrain à chaque élection. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai posé la question là aussi à quelques-uns de mes invités, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous alerte finalement?
Mais voyez-vous, moi je suis en colère ou je suis fâché. Et mes idées sont bien posées dans ma tête. C'est pas une colère pour simplement passer dans les médias et pour dire que Vincent Lemot est un homme en colère. Non, c'est parce que effectivement, au bout du compte, on est des tout simplement des citoyens, des citoyennes. Chaque matin, on vit notre vie de papa, de citoyen, d'usager, de client, et on rencontre les gens. Et les gens depuis plusieurs mois, ne cachent plus leur colère. Avant, les gens n'allaient pas voter parce qu'ils disaient « je vais pas faire du mal à la République ». Aujourd'hui, ils ont passé un degré supplémentaire en disant « on n'est vraiment pas entendu, quoi ». Ou même mieux, écouté. Donc les gens, aujourd'hui, expriment leur colère par le bulletin de vote. Et ce sont les formes de radicalité qui recueillent le vote. Ce qui est logique en sciences politiques. Donc je ne sais pas, à un moment donné, si on fait... exprès d'aller jusqu'à mettre les gens en colère, mais il va falloir qu'on apaise et qu'on rende serein notre société. Donc, il va falloir changer nos méthodes de travail et nos méthodes de participation et de concertation de la population. C'est ce qu'on essaye de réinventer dans nos communes avec notre démocratie, non pas participative, coopérative. C'est-à-dire que aujourd'hui, on demande pas simplement ce que tu penses, voilà, et on va mettre ça dans un rapport. Non, on demande aux gens de coopérer à la prise de décision. Et je vais le faire là à partir du mois d'octobre aussi à l'agglomération Guingamp-Paimpol, en mettant en place des actions de coopération avec les citoyens. Donc on voit qu'on a besoin de changer nos méthodes de travail. Je pense que cela doit être aussi inscrit dans l'organisation de l'État. Il faut que le gouvernement, il faut que les ministères ne soient pas là simplement que pour administrer, ils sont là aussi pour rendre plus heureux, plus sereins nos concitoyens. Et ça, c'est une mission des politiques.
C'est une forme de décentralisation citoyenne, si j'ose le terme.
Complètement. Je pense que la nouvelle étape de la Ve République, c'est que le citoyen doit désormais coopérer à l'action publique et être partie prenante de la décision. Comme je vous le disais à l'instant, même si nous ne sommes pas compétents, nous, maires, pour définir la politique de santé publique dans nos territoires, on peut y participer par des réunions parfois fantoches, je le dis clairement. Cependant, l'État pourrait nous amener naturellement à participer à la décision. Et c'est là où effectivement, il y aurait un plus dans l'organisation politique de notre territoire, de notre pays. Pareillement pour les citoyens. Les citoyens peuvent aussi rentrer dans la décision. Et je pense que ça enlèverait la frustration du sentiment « ils nous écoutent pas, on ne sert à rien, ils font ce qu'ils veulent ». Et d'une certaine manière, ils pourraient ainsi se réapproprier la décision. Et de regarder aussi que c'est complexe, parfois, de décider.
Complexe et il faut se réapproprier finalement la vie politique. On a entendu ces dernières années le fameux tous pourris, les politiques de droite, de gauche, on n'en veut plus. Est-ce que là aujourd'hui il faut, j'allais presque là aussi dire, redorer l'image politique en ce sens où le politique est participant au même titre que le citoyen, même s'il a la décision en plus?
Vous savez, moi je suis très républicain et je sais d'où je viens par mon histoire et par mes sorts électoraux. J'ai pu gagner, j'ai pu perdre des élections. Donc on sait très bien que face à ces enjeux là, il faut rester toujours humble. Je ne suis pas né dans le 7e arrondissement de Paris, ni à Neuilly. Je suis né à Lannion, dans la campagne du Trégor. Je considère effectivement que chacun et chacune a sa place dans la décision. Elle n'est pas réservée à une caste dans notre République. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut donner cette perspective à tout citoyen de dire « je pèse à un moment donné en fonction du temps que j'ai, de l'envie de faire, mais j'ai le temps ». j'ai un temps, à un moment donné, à consacrer à la République. Donc je pense qu'il faut se réapproprier ce terme fort de républicain, de citoyen dans une République organisée, mais il faut que l'État se transforme radicalement et qu'elle ne soit pas là simplement que pour administrer. On est là pour faire vivre mieux nos concitoyens, nos concitoyennes. On n'est pas là pour administrer des concitoyens et des concitoyennes.
Alors d'autant que les citoyens, les citoyennes ont des desiderata en termes d'environnement, en termes de transport, on le voit. Alors là, c'est plutôt de la compétence de la région, mais voilà.
De l'agglomération.
De l'agglomération, d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est du quotidien. Les grands enjeux de l'environnement qui ont des répercussions, on l'a vu cet an dernier avec une météo très changeante, très capricieuse. Il y a aussi des demandes culturelles. Là, on le voit avec la langue bretonne également et les écoles d'Iwan qui ont du mal à faire face financièrement. Là aussi, tout ça, c'est des demandes qui vont vers les élus, vers l'élu que vous êtes. Comment arriver à satisfaire tout le monde, finalement?
À tout le moins, la première satisfaction que je vois quand je rencontre des gens en colère, pour rester sur ce terme, c'est de pouvoir organiser les lieux d'écoute et de décision. Alors, l'écoute, c'est la première intention, elle est nécessaire, donc ils sont satisfaits de voir cette action. Deuxième moment, après, c'est d'être entendu. Et c'est là où doit avoir lieu le moment de la collaboration pour trouver une décision qui soit la plus équilibrée possible en fonction de différents intérêts. Parce que c'est ça le travail d'un élu aujourd'hui, c'est la conjonction. C'est de gérer la conjonction des intérêts divergents d'une société aujourd'hui qui n'a plus forcément de sens de défini parce qu'il manque un projet politique pour notre pays, parce qu'il n'est pas partagé.
Il manque une vision,
voilà,
finalement.
Une vision d'homme ou de femme qui pourrait aussi incarner cela au niveau national. C'est ça aussi la tristesse du moment, c'est qu'il n'y a plus de personne pour incarner cela au niveau national, que ce soit à gauche, à droite, au centre et dans les extrêmes, n'en parlons pas. Je considère à un moment donné que le rôle de l'élu, et l'élu local, c'est de créer les conditions du dialogue républicain. Nous ne pouvons pas être des édiles, nous ne pouvons pas être des notables, nous ne pouvons pas être au-dessus de la mêlée. Nous sommes pleinement acteurs prenants de la démocratie locale. Donc c'est à nous de créer les conditions du dialogue et ensuite de créer les décisions. Donc c'est là où on a besoin effectivement ensuite que l'État fonctionne de la même manière. Parce que là on voit bien qu'à un moment donné, quand on a organisé notre concertation locale, ben on bute sur des problématiques. Regardons le cas d'Iwan. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec le conseil départemental, on s'est réunis avec le conseil régional, l'agglomération est présente, le maire de Plaisidy est présent pour l'avenir du collège de Plaisidy, mais il y a des règles de droit qui achoppent au niveau du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que on ne peut pas financer une école privée dans n'importe quelle condition. On peut l'entendre, mais comme républicain, comment aujourd'hui associer le maximum des volontés de nos concitoyens, nos concitoyennes autour de l'école laïque libre et gratuite, qui est déterminant, sachant qu'il existe des écoles privées à caractère confessionnel et d'autres à caractère laïque. Donc, à un moment donné, il faut regarder ce qui sera le mieux pour un territoire, et on a besoin d'un État qui adapte son regard sur ces territoires. Nous ne fonctionnons pas comme dans le nord de la France, nous ne fonctionnons pas comme à Lyon ou à Strasbourg ou à Marseille. La Bretagne est atypique dans le fonctionnement de la France. On est là depuis 500 ans à coller à la France, on est dans la France depuis 500 ans. Mais on a gardé quand même une vie, une réalité qui n'est pas forcément celle des autres régions de France. Donc moi je crois qu'il y a besoin d'adapter et de différencier. Parce que quand on prend en compte la différence de l'autre, l'autre se rapproche de nous. Les différences s'estompent. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'individu, de l'autrui, est nécessaire dans notre République aujourd'hui. Sinon, on va aller au-devant de gros problèmes dans l'uniformisme, qui aujourd'hui, l'uniformisme, éradique les différences, mais à quel prix ?
Diversité dans les territoires, finalement. Il nous reste deux petites minutes. Le changement politique, c'est aussi le changement du comportement, si vous me permettez le terme, des élus sur le terrain, en tout cas dans leur façon d'exercer la politique. C'est aussi parfois une lassitude, et je voulais vous entendre là-dessus avant de nous quitter. On a certains élus qui disent « bon, moi je jette l'éponge, c'est trop compliqué, il y a trop d'administratifs », surtout dans les petites communes qui n'arrivent pas toujours à gérer, alors même s'il y a les agglos maintenant. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous la comprenez, cette lassitude?
Ouais, je le comprends, mais je leur dis surtout ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que la République a besoin de citoyens et de citoyennes engagés et qui comprennent les autres. On n'est pas là, quand on est élu, pour se servir. Et ça, effectivement, les élus ou les personnels politiques qui pensent qu'une fonction fera une vie, non.
Le carriérisme, c'est fini, finalement.
Pour moi, c'est des gens qui qui fatigue et qui enquiste la vie publique. Ces gens-là doivent, à mon avis, rester chez eux et s'engager dans le monde associatif ou dans le monde politique local, c'est-à-dire d'apprendre. Je pense qu'il faut être sur un engagement qui doit être totalement désintéressé, même s'il y a des indemnités politiques. C'est normal pour le fonctionnement de la République, mais il faut être dans un engagement total. Et je pense que les élus qui en ont marre aujourd'hui doivent réfléchir avant de baisser les bras, parce que la politique a horreur du vide. Et malheureusement, dans cette République aujourd'hui qui est fortement controversée par l'abandon de certains, malheureusement, on pourrait voir l'arrivée d'autres, mais avec des valeurs bien moins belles pour notre République et notre démocratie. Donc moi, j'engage les élus de la République à être très vigilants pour les élections de 2026 et 2027 et de ne pas laisser la place à d'autres qui pourraient être bien pires pour notre avenir.
Un tout dernier mot, deux ministres bretons hein, dans le nouveau gouvernement Barnier, le maire de Lorient, Fabrice Loher, qui hérite du portefeuille de la maire, et Françoise Gatel sur les territoires. C'est une bonne nouvelle ça ?
Alors la représentation elle est meilleure que dans le précédent gouvernement, c'est toujours pas de costa-armoricains. Voilà, donc je constate que les costa-armoricains ont disparu de la place politique nationale.
Il restait Hervé Berville hein, qui a été remplacé par Fabrice Loher.
C'est un regret, mais Hervé Berville est arrivé en Côte d'Armor en 2016. Hein. J'ai un peu suivi son parcours lorsqu'il a eu sa carte au Parti Socialiste et que j'étais premier secrétaire du Parti Socialiste, que je l'ai vu arriver en Côte d'Armor à quelques mois des élections présidentielles pour sans doute favoriser la venue de Emmanuel Macron au pouvoir. Donc voilà, je l'ai rarement croisé par ailleurs. Je constate effectivement que c'est encore la même organisation politique avec les mêmes portefeuilles attribués, c'est-à-dire que à part Jean-Yves Le Drian qui a été un grand ministre de la Défense et puis des Affaires étrangères, voilà, la Bretagne ne se résume aujourd'hui à des sujets très importants, celui de la mer en particulier, la ruralité pour Madame Gatel, mais pour moi c'est pas la place de la Bretagne. Et où sont les Côtes d'Armor, une nouvelle fois? Abonné absent.
Voilà, on laisse la question en suspens. Et concernant Jean-Yves Le Drian, il est actuellement sous le feu de l'actualité puisqu'il est au Liban, voilà, d'accord, pour essayer d'apaiser la situation. Nous étions ce matin avec Vincent Lemot, président de l'agglomération Guingamp-Paimpol agglomération, donc l'agglomération Guingamp-Paimpol dans les Côtes d'Armor, également maire de Plouëc-du-Trieux, donc élu de terrain s'il en est.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.